L'éducation populaire, quel lien avec la mutualité ? L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans le contexte d'un cycle de conférences autour de l'éducation populaire que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à François Perle, qui est intervenu pour une matinée sur l'éducation populaire, quel lien avec la mutualité. François Perle, vous êtes conseiller stratégique chez Solidaris. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Solidaris ?
Vous avez donné mon titre, donc je vais passer directement à mon organisation. Donc Solidaris, en fait, est le nouveau nom, maintenant depuis un peu plus d'une dizaine d'années, de la mutualité socialiste. C'est en importance et en termes de nombre d'affiliés la deuxième mutualité en Belgique. On a à peu près sur l'ensemble du territoire un peu plus de 2 200 000 affiliés. C'est une mutualité de combat, comme on aime le rappeler, dans le sens où c'est une mutualité qui a toujours intégré la dimension politique et citoyenne de son action. Donc, elle joue un double rôle, hein. Comme toutes les autres mutualités en Belgique, elle joue un rôle de gestionnaire de l'assurance maladie par délégation de l'autorité publique, mais elle joue aussi un rôle important dans les instances paritaires de gestion de la démocratie sanitaire en Belgique, mais aussi sur le plan de toute une série d'activités de plaidoyer qu'elle mène en dehors des instances dont elle est membre.
Alors, le thème de la conférence de ce matin, c'était l'éducation populaire, c'est aussi le thème de notre entretien. Ça s'appelle éducation permanente en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où ça vient ?
C'est un concept qui est souché comme l'éducation populaire, c'est-à-dire dans l'idée que l'éducation, elle ne s'arrête pas à l'école, qu'elle sort de l'école et qu'elle est quasiment un court cursus qui va se dérouler tout le long de la vie, en particulier pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir accès à de l'enseignement supérieur. Et donc, c'est vraiment un concept de démocratisation de l'enseignement, du savoir surtout. Hein. Plus que de l'enseignement, c'est le savoir, c'est une démocratisation du savoir, une diffusion du savoir dans un objectif de construction d'une citoyenneté active et d'émancipation sociale et politique.
Alors, quels sont les liens entre éducation permanente et mutualité ?
Bien, elles sont historiques. Donc, la mutualité, en fait, en Belgique, s'est inscrite dans un pilier global. Il reste deux piliers principaux en Belgique, le pilier chrétien et le pilier socialiste. Au sein du pilier socialiste cohabitent le parti, le syndicat et la mutualité. Alors, ça peut paraître un peu anachronique vu de France, mais en Belgique, c'est encore beaucoup de vitalité. Et chacune des composantes de cette action commune ont un bras armé, je veux dire, d'éducation permanente, très importante au niveau mutualiste. On aime se définir solidariste davantage qu'une mutualité, un groupe avec toute une série d'activités, un réseau sanitaire important puisque nous offrons des services sociaux et des services sanitaires à nos affiliés et au-delà de nos affiliés d'ailleurs, mais aussi un pilier d'éducation permanente qui se structure en fait autour de quatre grands groupes d'âge ou de genre. Hein. D'abord un pilier féminin, on a une organisation d'éducation permanente qui s'appelle Soralia, qui est en fait le nouveau nom des femmes prévoyantes socialistes, qui est une ancienne mutualité qui a muté progressivement en organisation d'éducation permanente. Alors c'est un mouvement très large, ce n'est pas simplement de la formation, en tout cas de la formation tout au long de la vie, il y a de l'enseignement, Soralia organise de l'enseignement, il y a aussi de la santé féminine, Soralia est affiliée, enfin plutôt à développer un réseau de planning familial très important en fédération Wallonie-Bruxelles, donc sur le territoire, l'espace francophone de la Belgique, et aussi alors toute une série d'activités plus liées à ce qu'on connaît au niveau de l'éducation permanente, c'est-à-dire des animations socioculturelles dans les territoires, avec l'accent mis bien entendu sur les droits des femmes, qui est vraiment un peu l'ADN de Soralia. Alors nous avons une deuxième organisation qui agit un peu en miroir, mais pour les personnes en situation de handicap, qui s'appelle SNK, c'est l'ancienne association socialiste de la personne handicapée, et qui a un peu aussi cette double activité, c'est-à-dire de faire du plaidoyer politique. Hein. C'est une dimension très importante de l'éducation permanente, c'est la défense en fait des publics visés par l'organisation, mais aussi de la formation, de l'animation socioculturelle, de l'animation l'action politique et tout un pilier service très important au niveau de l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Et nous avons une troisième organisation qui fait la même chose, alors cette fois-ci pour les seniors, hein, pour les personnes âgées, mais avec vraiment, tout comme par exemple les SNK se bat contre le validisme, l'idée de se battre contre l'âgisme, c'est-à-dire vraiment essayer de travailler sur le terrain des discriminations liées à l'âge, travailler sur le droit des personnes âgées, le droit à la santé, le droit à avoir une vie active, une participation culturelle, et aussi des questions peut-être plus difficiles, mais qui sont très importantes aussi, comme la fin de vie. Et nous, je termine par là, nous avons une quatrième organisation qui n'est pas vraiment une organisation d'éducation permanente, mais qui offre également, malgré tout, des animations un peu, de type un peu politique, c'est Espace Jeune, qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux jeunes jusqu'à 25 ans.
Justement, on vous entend parler beaucoup d'éducation permanente. Quelles sont les missions éducatives de la mutualité ?
Bien, la mission éducative de la mutualité, elle se décline pour moi sur deux plans. Il y a évidemment une mission éducative au niveau de la santé. Nous avons un service de promotion de la santé qui essaye de donner des outils à nos affiliés pour prendre en main leur santé. Hein, donc, dans l'idée que la mutualité n'est pas simplement un fournisseur de services, mais aussi un puissant outil d'émancipation et de participation. Donc, vraiment donner des outils, mais alors là, pratico-pratique en termes de promotion de la santé. Donc, c'est aussi bien des campagnes d'information sur la vaccination ou d'autres types de soins, mais c'est aussi ce qu'on appelle en terme anglais un peu barbare, outreaching, hein, c'est des agents de prévention qui vont chercher les personnes qui ont un faible niveau de littératie en santé pour justement les affilier plus à des pratiques de santé communautaire. Donc on se rapproche là peut-être un peu plus de l'idée de pratique de santé communautaire éducative. Donc ça, c'est un premier étage. Et je dirais que le deuxième étage est vraiment lié à l'émancipation sociale, puisque nous pensons que l'éducation à la santé, la promotion de la santé, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large où nous voulons aider et accompagner nos affiliés dans une véritable démarche de participation active, sachant que la santé est un domaine politique qui a des ramifications très larges. Hein. On peut difficilement, par exemple, traiter la question des inégalités sociales sans parler de santé et vice-versa. Il y a toutes les questions liées à la marchandisation de la santé qui sont importantes. Donc voilà, on ne se limite pas, je veux dire, à ce qui est pourtant très important, hein, mais je ne veux pas être péjoratif, on ne se limite pas à des conseils santé. C'est vraiment tout un mouvement d'éducation à la citoyenneté, mais encore beaucoup plus sur le terme éducation, peut-être à certains niveaux limitatifs, mais donc de vraiment de prise de conscience et de prise de pouvoir de nos affiliés dans le contexte des combats que nous menons.
D'accord, donc autrement dit, on est vraiment plus sur une émancipation citoyenne de l'adhérent, hein, c'est bien ça ?
Voilà, tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple ?
Mais donc, par exemple, récemment, en fait, nous avons mené une grande campagne de plaidoyer pour la diminution du prix des médicaments. C'est une campagne d'information avec une pétition citoyenne en Belgique. En fait, quand on recueille un nombre de signatures, de mémoire, c'est 25 000, on peut aller au Parlement déposer, non pas une proposition de loi citoyenne, mais une initiative citoyenne, donc obliger le Parlement à discuter d'un problème. Ici, c'était le problème du prix des médicaments et de l'accès et des profits absolument gigantesques que font les firmes pharmaceutiques. Et donc, on a mené toute une démarche à partir notamment de nos territoires, nos organisations d'éducation permanente pour essayer en fait, de faire converger un maximum de personnes autour des revendications que nous portions, c'est-à-dire la mise en place d'un prix transparent des médicaments et la réduction des profits des firmes pharmaceutiques, mais dans un contexte d'information et de participation des affiliés. Donc, il y a eu beaucoup d'animations dans les territoires. Donc, ce n'était pas simplement faire signer une pétition à nos affiliés, c'était aussi les informer le plus justement possible sur la problématique du prix des médicaments et sur tous les enjeux socio-économiques du médicament. Donc c'était en fait une très très bonne manière de combiner les deux métiers, mais en tout cas les deux niveaux d'éducation, puisqu'évidemment je crois que c'est important de considérer que le médicament n'est pas un produit comme un autre. Donc il y a tout un effort d'éducation pour prendre conscience de ce qu'est le médicament, ce que représente le médicament, mais aussi tous les enjeux socio-économiques et politiques du médicament. Donc c'était vraiment, moi je pense, un bel exemple d'intersection des différents métiers, des différents leviers d'action que Solidaris utilise.
Et est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, d'un projet concret d'éducation à la santé ou de participation sociale mené par Solidaris, et comment est-ce qu'il a eu un impact sur sa communauté ?
Mais donc, j'y ai fait référence. Donc en fait, pendant la crise du Covid, La ministre de la Santé en région Wallonne a débloqué des fonds pour permettre à Solidaris de participer à ce qu'on appelait à l'époque le contact tracing, c'est-à-dire que c'était des centres d'appel pour inciter les gens à la vaccination. Et donc, on a un peu, par sédimentation, essayé de retenir le positif de cette période, essayer de voir qu'est-ce que des agents de terrain, essentiellement par téléphone, mais aussi de la possibilité de pouvoir aller de faire du porte-à-porte dans certains cas, pouvaient apporter en termes d'outreaching par rapport au public qui sont éloignés des questions de santé. Ça peut prendre différentes formes. Par exemple, on a travaillé pendant les épisodes caniculaires à des plans caniculaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a parmi nos affiliés des personnes qui sont inscrites et dont on a les numéros de téléphone qu'on appelle à plusieurs moments de la journée pour voir s'ils sont bien compliants avec toutes les règles de prudence en matière de canicule, mais aussi parce que la santé, ce n'est pas que de la santé, c'est aussi des droits, c'est aussi un peu sensibiliser les gens à l'ouverture de leurs droits, parce qu'il y a encore beaucoup de droits qui ne sont pas ouverts, parce qu'ils ne sont pas automatiques, hein, notamment le droit à des meilleurs remboursements de soins de santé, que ce soit de médicaments ou de consultations chez les médecins. Donc, c'est ce qu'on appelle le bénéfice de l'intervention majorée en Belgique, donc le BIM, qui est en fait une intervention majorée de l'assurance obligatoire dans les soins de santé. Mais voilà, c'est un processus volontaire, c'est une démarche volontaire qui donne un taux important de non-recours. Et donc là, nous avons des agents de prévention, dont un des métiers aussi est de téléphoner aux personnes qui sont identifiées comme n'ayant pas recours au droit et de les accompagner dans le parcours d'ouverture du droit jusqu'à l'agence Solidaris, où là, ils pourront, après une démarche administrative, ouvrir ce droit. Donc, c'est un travail vraiment de contact direct avec l'affilié, qui n'est pas un contact marketing, qui n'est pas un contact commercial, mais qui est vraiment un contact d'accompagnement. C'est vraiment tout le travail d'accompagnement social que nous faisons, mais nouveau dans une démarche émancipatrice. Donc, c'est pas paternaliste, c'est plutôt justement au contraire essayer de faire prendre conscience à nos affiliés de l'intérêt de prendre soin de soi et de prendre soin de ses droits.
Alors, comment vous voyez l'évolution de l'éducation populaire dans le contexte actuel en Belgique et quelles sont les opportunités à saisir pour renforcer son impact ?
Alors, je dirais qu'il y a des menaces et des opportunités comme tout le temps. Donc, comme dans toute l'Europe, la Belgique n'échappe pas à cette règle, on a des problèmes, pas des problèmes, mais il y a une remise en question du rôle de ce qu'on appelle les corps intermédiaires et donc d'éducation permanente. Pourquoi ? Parce que tout ce qui échappe au marché, tout ce qui échappe à des logiques commerciales apparaît forcément comme suspect pour certains responsables politiques. Et donc, on essaye de restreindre nos moyens d'action, d'autant qu'en plus, on est des leviers de contre-pouvoir et que les contre-pouvoirs dérangent. Donc, je dirais que ça, c'est un peu la menace générale. Alors, en Belgique, on se débrouille encore pas trop, trop mal parce qu'on a quand même un réseau associatif encore très dense. Et que je pense qu'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, Belgique francophone, pour l'instant, hein, rien n'est jamais définitif, ne s'est pas encore offerte, entre guillemets, à l'extrême droite, est grâce à ce maillage très dense de réseau d'éducation permanente. Mais je crois qu'une des opportunités, c'est justement la nécessité, dans un contexte de démocratie renouvelée, d'avoir des corps intermédiaires qui sont forts, qui sont des relais puissants de la démocratie, parce que je pense qu'une démocratie, elle ne se vit pas tous les 4 ans ou tous les 5 ans au moment d'épisodes électoraux. Elle doit se vivre au quotidien, et que dans ce contexte-là, l'éducation permanente, elle joue un double jeu, elle joue ce rôle d'information, d'émancipation, et puis elle joue ce rôle aussi de structuration de la société pour lutter contre le déclassement social. Nous sommes des agents de cohésion sociale. Je crois que l'éducation permanente doit être vue vraiment comme un puissant agent de cohésion sociale. Nous sommes, j'aime bien définir ça comme étant des fabricants de cohésion sociale. On fabrique la cohésion sociale, on fabrique la cohésion démocratique par toute une série de leviers, des leviers culturels aussi, hein. Nous avons pas mal d'activités socioculturelles. Nous organisons par exemple chaque année un grand festival de musique qui a la particularité d'être particulièrement abordable sur le plan financier, mais aussi de mêler musique et animation socioculturelle et politique. Donc voilà, on essaie vraiment de produire du lien, de produire de la cohésion sociale. Et je pense que à l'heure notamment des réseaux sociaux, je crois que c'est très important, parce que les réseaux sociaux, alors on parle beaucoup de digitalisation, on essaye nous justement de montrer qu'il n'y a pas que les canaux digitaux. On ferme pas des agences chez nous. On pense que l'agence mutualiste a encore un rôle très important, mais elle n'est pas la seule. Je crois qu'il y a tout ce ferment de cohésion sociale qui est lié à la mutualité. Et je te répète, à l'heure de la digitalisation, c'est très important d'avoir encore un contact direct avec l'affilié qui ne passe pas par Facebook ou par un autre réseau social.
Merci beaucoup François Père. Alors j'ai une dernière question. Un livre, un film, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou alors un guide pour s'aventurer vers l'avenir?
Alors j'aime toujours faire référence à un film ancien de Ken Loach qui s'appelle Bread and Roses, qui est un film magnifique sur l'engagement syndical et sur la construction de futur, même dans une vision parfois très pessimiste, il y a toujours une lumière qui brille quelque part.
Merci pour cette belle illustration du recours à l'éducation populaire comme moyen de faire vivre un espace de démocratie effective et d'engagement au sein de la mutuelle. Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour des futurs épisodes sur les sujets passionnants. Merci de nous avoir rejoints.